Salut et bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 6 d'ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Autour de la table ce lundi, Didier Crot, Frédéric Vernat et Christophe Buron. Messieurs, bonjour.
Bonjour Manu, bonjour à tous.
Salut Manu, salut à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Manu.
Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Christophe Furios, un an après l'arrivée du technicien à la tête de l'ASM. Nous allons nous poser cette question, la greffe Christophe Furios a-t-elle pris à Clermont ? Nous évoquerons également les deux rendez-vous cruciaux qui attendent les Clermontois lors des deux prochains week-ends. Ce sera du top 14 avec ce déplacement à Castres ce samedi et la réception de Lyon la semaine suivante. Au programme également la Challenge Cup. Jusqu'où l'ASM peut-elle aller dans cette compétition ? Et enfin, nous terminerons avec les tops et flops. Mais revenons au thème principal de cette émission. Et à cette question, la greffe Christophe Furios a-t-elle pris à l'ASM ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, petit tour de table, Didier.
Globalement, oui, même si ça reste à peaufiner.
Fred, pour rester dans le médical, je dirais qu'il n'y a pas de phase de rejet. Encore, on en est loin. Donc oui, pour moi, la greffe a pris.
Alors, pour faire dans le bucolique, je veux dire qu'il y a un petit greffon, mais que peut-être que le printemps annonce une floraison peut-être remarquable, on va voir.
Bon, ça sent un coup de gel. Hein.
Eh oui, il peut geler tard chez nous en Auvergne.
D'abord des gels tardifs. Déjà, avant, petit bilan, petit point sportif. Hein, donc Christophe Furios qui a rejoint Clermont le 18 janvier 2023. Il a coaché pour la première fois officiellement l'ASM, c'était du côté de Lyon, il y a un an. Le bilan sur la saison passée est de 6 victoires pour 7 défaites. L'ASM qui avait terminé 10e du top 14 et qui avait fini quart de finaliste de la Challenge Cup, défaite face aux Scarlets 32-30. Et cette saison, un bilan assez équilibré, 8 victoires, 1 nul et 7 défaites, toutes compétitions confondues. L'ASM qui pointe actuellement à la 9e place du top 14 avec 26 points et qui a terminé 2e de sa poule de Challenge Cup et qui est donc qualifié pour les 8e de finale. Messieurs, d'un point de vue purement sportif, on va dire que le bilan est moyen.
Oui, le bilan est moyen. Il dénote qu'il n'y a pas eu à ce titre-là, dans ce domaine-là, de progrès significatif par rapport au bilan que l'on pouvait attribuer à son prédécesseur, puisqu'on est sur les mêmes taux de victoire, un peu moins de 50% pour les uns et pour les autres. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de flambée.
C'est factuel au niveau du classement, en fait. On regarde John Gibbs quand il est parti. L'ASM était 10e à 4 points de la 6e place. Mm-hmm. On regarde l'ASM aujourd'hui, c'est 9e à 5 points de la 6e place. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de grande évolution, en tout cas.
Tout à fait, tout a été dit. Ça, on ne peut pas dire que ça a beaucoup avancé, en effet.
Avec le recul, avec ces 12 mois de vécu, selon toi, Christophe, qu'est-ce que Christophe Furios a apporté à l'ASM depuis qu'il est là, ou est-ce que dans quel secteur il a le plus imposé sa patte ?
Alors déjà, il faut rappeler qu'il y a eu une moitié de saison, ces six premiers mois à l'ASM l'ont été avec un staff qui n'était pas le sien, qu'il n'avait pas choisi. Il travaille depuis maintenant 5 ou 6 mois, enfin depuis le début de cette saison, avec son staff à lui, celui qui l'a fait venir. Il y a des axes de progrès, comme ça, je dirais, déjà la réussite des buteurs est quelque chose qui est un peu significatif et qui peut dénoter peut-être une confiance supplémentaire cette année. Avec des buteurs. Alors, il y a eu l'arrivée du Rada Pileta, mais on se rend compte qu'Anthony Bello a augmenté aussi, lui, à titre personnel, son taux de réussite. Donc ça, la réussite au pied est aussi un baromètre important. La conquête, pour moi, c'est peut-être le secteur principal de progrès. Je trouve que la mêlée est beaucoup mieux. La touche, il y a moins de ballons perdus. On a le souvenir l'année dernière la saison dernière de munitions égarées, notamment dans les zones de marque. Il y en a peut-être un peu moins cette année, même s'il y en a encore. Donc oui, conquête, réussite des buteurs. Et puis bon, il y a des progrès qui sont faits, mais de manière peut-être un peu trop encore chaotique. Un coup en avant, un coup en arrière. Ça reste, la constance reste quand même l'axe de progrès à venir, qui n'est pas encore là aujourd'hui avec Furios.
Il avait prévenu de toute manière qu'il faudrait du temps, et les résultats, entre guillemets, le confirment derrière.
Oui, il le savait de toute façon, même s'il ne le disait pas trop fort, parce que bon, quand on arrive dans un nouveau club, on est obligé de fixer quand même des objectifs assez hauts, hein, même si on sait que ça sera compliqué de les tenir. Quand il est arrivé, il avait dit la top 6 comme objectif, sachant que ça allait être très compliqué. Mais oui, effectivement, il y a quand même quelques axes de progrès. Il y a aussi dans cette nouvelle saison, quand même, il travaille avec un groupe qu'il a commencé un peu à modeler, contrairement à ce qu'il est arrivé. Bon, il avait hérité d'un groupe qu'il n'avait pas choisi. Donc là, il commence à mettre la patte un petit peu sur un groupe qu'il a vraiment choisi, nonobstant le staff avec qui il travaille maintenant, c'est sûr.
Les six premiers mois lui ont servi d'état des lieux, enfin d'établir un état des lieux. Effectivement, comme le disait Didier, il a pu commencer à peaufiner un peu son effectif en axant les efforts sur le pack. N'empêche, il est confronté à la situation du club qui n'est pas simple. Le président l'a répété dans nos colonnes il y a une dizaine de jours. Ça pèse aussi et ça compte pour le coach aujourd'hui, le technicien qu'il est.
Pour paraphraser un ancien entraîneur de basket, de dauphin, t'en fais pas des requins. L'effectif, je veux dire, il a évolué à la marge. Hein. Il y a quand même eu des arrivées assez significatives. Quelques joueurs un peu aguerris, Urda Pileta en tête, mais pour autant, l'effectif en soi n'a pas été changé du tout au tout. Donc le matériel reste le même. Je trouve que c'est dans la structure du club qu'on sent que la greffe, malgré tout, est en train de prendre. Il a pris de la hauteur, Christophe Furios, cet été, avec l'arrivée de ses adjoints. Donc, c'est pour donner une ligne directrice à ce club. Et c'est visiblement le rôle que lui a alloué, en plus, le président. Je trouve ce qui est important aussi... C'est lignes qui ont changé, il y a l'aspect infirmerie, l'aspect médical, blessure. Là, il y a eu un réel effet, puisque on voit cette saison qu'il y a beaucoup moins de blessés. Ça, c'était vraiment quelque chose, un chantier assez important à l'ASM. Je trouve qu'en termes d'image, alors on va dire que c'est Urios, évidemment, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, hein, qui prend la lumière, mais c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui a un discours assez offensif. Ça change. John Gibbs, avec toutes ses qualités de technicien, ne pouvait pas de toute façon occuper cette place-là. Donc au moins sur le terrain médiatique, je trouve qu'il a il a cet avantage-là et il participe à ce qu'aspire l'ASM, c'est-à-dire un esprit de reconquête, quoi. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant, en fait, de l'avoir d'avoir quelqu'un.
Pour rebondir sur ce point, justement, c'est un entraîneur qui a son franc-parler. On l'avait vu partout où il est passé, hein. Et au départ, quand il a été nommé, c'est vrai qu'on se posait cette question: est-ce que ça peut coller avec un club comme l'ASM, qui est historiquement assez fermé, qui fait très peu de vagues? Un an après, enfin, il n'y a pas eu de...
C'est vrai que le choix avait surpris quand il est arrivé dans le milieu, parce que l'ASM est un club plutôt discret, qui en plus qui sortait d'une période avec des entraîneurs qui n'étaient pas qui n'était pas dans le discours cash, qui n'était pas dans l'hypercommunication. Je parle de Franck Azema et Johnny Gibbs, donc c'est vrai que ça change un peu. Et peut-être que c'était la personne qu'il fallait pour, dans un premier temps, pour réattirer la lumière sur le club. Mais ça ne suffira pas. Je veux dire, il va falloir qu'il y ait autre chose dans le club. Alors, des hommes, des joueurs, des dirigeants, des projets. Bon, il y a des projets en cours, hein, qui vont sortir des cartons. Il fera autre chose pour que le club redevienne, réattire la lumière, comme on dit, et retrouve un peu les feux de la rampe.
Ça y contribue en tout cas, parce que c'est vrai que sa venue a permis d'ouvrir un peu le club, un peu beaucoup même le club sur l'extérieur, hein, avec des opérations comme les journées jaunardes ou des choses comme ça qui marchent bien, hein, qui envoient le succès que ça a quand ils vont à Saint-Flour, quand ils vont à Brioude. Alors ça constitue un manque, invisiblement, et un besoin par rapport aux supporters. Donc ça c'est Urios qui l'a instauré, c'est sûr.
Oui, pour corroborer ça, c'est qu'il ne serait-ce que les soirées supporters qu'il fait. Hein. Il en fait une par mois, je crois, sur Clermont. Et je crois que ça se bouscule au portillon. Hein. Il faut s'inscrire. Et je crois qu'à chaque fois, il refuse du monde. Hein. Donc il y a cette ouverture.
Sur 20 est bien vendu aussi.
C'est un autre... voilà. Il joue un utile à l'agréable, peut-être. Et c'est vrai que les supporters sont assez friands de ce genre de rendez-vous, de débat avec l'entraîneur en chef de l'ASM. Et puis bon, il faut rappeler que ça faisait peut-être 10 ou 15 ans qu'on n'avait pas un entraînement ouvert au public, un vrai entraînement de rugby, autre chose.
C'est pas rien, parce que le lien était quand même distendu avec le public, que ça soit les joueurs, les dirigeants, le stade.
Et c'est vrai que le Covid avait fait que ça s'était encore plus distendu, il y avait de moins en moins de monde au stade. Et il fallait recréer ça. Et en ce sens, le choix d'Urio, c'était probablement la bonne option pour.
C'était un peu un besoin et une nécessité hein, par rapport à la baisse d'affluence. Le club était aussi en recherche, forcément, de nouveaux partenaires, hein, peut-être, et aussi d'aller chercher les supporters qui étaient partis. Il fallait les. Maintenant, alors qu'une époque, ils étaient à guichet fermé continuellement, il fallait y refuser du monde. Là, maintenant, il faut les chercher avec les dents. Et donc, avec Urios, c'est quand même plus facile d'attirer un peu la lumière et d'aller chercher ces gens et d'établir une communication avec la Yellow Army, comme ils l'appellent.
Hein. Mais on voit effectivement ses missions depuis son arrivée, et quand on vous entend. Tant, messieurs, il y a eu la partie sportive, mais son champ d'action dépasse largement les cadres, le cadre sportif. Dans un deuxième temps, c'est plus sur la partie sportive qu'il va falloir axer les efforts pour, justement, pour que les résultats reviennent.
Seuls les résultats.
Il n'y a que ça qui fera que Clermont remontera, évidemment. Et on parlait de l'effectif. Il a un peu plus la main aujourd'hui sur cet effectif, mais il est encore en train de. De le constituer encore plus à sa sauce. Et on voit bien le départ des jeunes qui étaient là avant lui. Je parle à Bibi Bizou, Beria, enfin Berry Garay qui va s'en aller aussi.
Tibérien qui est parti.
Le petit Boudou. Enfin, et l'année dernière, ça avait commencé, ça va continuer. Il faut 2-3 ans, en fait, pour qu'il ait un effectif qui lui ressemble entièrement, quoi. Et ça, il faudra encore un peu de temps, quoi. Il y en aura un peu plus cette année, un peu plus l'année prochaine. Maintenant, est-ce qu'il y aura suffisamment d'années pour construire tout ? Ça, l'avenir le dira.
Et lui-même le dit, hein, que, bon, d'ailleurs, que ça avance pas assez vite hein, dans son esprit, le dernier résultat. Là, on sentait, notamment après la Gloucester, la débâcle qu'il y avait en Angleterre, quelques résultats aussi à Pau, aussi, qu'il était un peu agacé, hein, qu'il a dit plusieurs fois, ça avance pas assez vite.
Est-ce qu'une non-qualification dans le top 6 viendrait ternir un petit peu le bilan des 18 premiers mois de Christophe Urios ?
Forcément. Pour moi, c'est évident. Oui. Et d'ailleurs, c'est même pas nous qui le disons, c'est le président lui-même de l'ASM hein, qui a dit que ça serait une déception de ne pas avoir l'ASM dans les 6. Donc, c'est assez clair.
Sur quel levier il va devoir activer dans les semaines, avant la fin de cette saison, maintenant ?
Bah, il l'a déjà un peu fait, il l'a déjà dit, notamment après les matchs perdus du mois de décembre. C'était vraiment le socle défensif qui était à reconstruire, parce que cette équipe a montré qu'elle était capable d'attaquer, de marquer des essais, mais bon, elle en prenait plus qu'elle n'en mettait, donc il y avait un vrai problème. Et là, pour le coup, depuis 3 matchs, depuis début janvier, il y a du mieux. Bon, maintenant, c'est à confirmer dans la durée. Donc il va falloir qu'il continue à activer ce levier. Qui est extrêmement lié à l'état d'esprit, à la mentalité de l'équipe. Et ben, c'est là où se juge aussi le rapport joueur-entraîneur, voir comment les joueurs réagissent et au discours et aux méthodes du coach. Et bon, pour l'instant, c'est plutôt encourageant, mais comme je l'ai dit, il faut que ça soit confirmé en top 14, et notamment sur ces fameux matchs à l'extérieur.
Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport à son arrivée, où il avait peut-être mis la barre assez haut, Didier l'a dit, c'est le jeu hein, d'un entraîneur qui arrive, voilà, d'avoir des ambitions assez élevées. Je trouve qu'il y a un discours qui est un peu plus réaliste aujourd'hui.
À l'image du club d'ailleurs, à l'image des présidents.
À l'image du club.
Il y a eu un petit changement de cap à ce niveau-là.
Il y a un petit changement de cap, ne serait-ce que sur le jeu. Hein, il était, semble-t-il, très attaché à l'ADN, je crois qu'il l'avait présenté un peu comme ça, l'ADN de l'ASM avec du jeu au large notamment. Bon, évidemment, on en est loin aujourd'hui. Cette saison, c'est plutôt du jeu direct qu'on constate à chaque rencontre.
Mais c'est aussi la marque des entraîneurs qui s'adaptent à l'effectif dont ils disposent. Donc, si j'entends bien, on va attendre encore quelques semaines pour voir si la greffe apporte ses premiers fruits dans les.
Pour attendre le printemps.
C'est
bien connu.
Et en espérant qu'il n'y ait pas des vendanges tardives.
Merci messieurs en tout cas pour ce premier thème dans ce podcast. Tu parlais Christophe il y a quelques secondes de l'ASM à l'extérieur, voir le visage des Clermontois à l'extérieur. Eh bien, on aura un premier aperçu samedi et on va embrayer avec la deuxième partie de ce podcast justement sur les deux prochains rendez-vous des Clermontois. Clermont qui va retrouver le top 14 ce samedi avec le déplacement du côté de Castres. La semaine suivante, tu auras la réception de Lyon pour boucler ce bloc infernal de 15 matchs hein, qui avait débuté à la sortie de la Coupe du Monde. Deux matchs importants pour les Clermontois. On le rappelle, ils sont 9e du championnat avec 26 points. Messieurs, est-ce que ces deux prochains matchs qui se profilent, est-ce que ces matchs vont déterminer la fin de saison des Clermontois ?
Déterminant, non, parce qu'on est encore trop loin de la ligne d'arrivée, mais ils sont cruciaux. Ils sont cruciaux pour rester vraiment dans la course et rattraper le bon wagon, oui.
On rappelle, hein, Castres qui est 7e avec 30 points, prochain adversaire des Clermontois. Et ensuite, l'ASM qui recevra Lyon lors de la première journée de la phase retour. Lyon qui pointe à la 13e place avec 20 points. Déjà, ce premier match peut permettre au Clermontois de se rapprocher du CO en cas de défaite. Par contre, les Castrés qui prendraient le large, il y a déjà 4 points d'écart.
Alors moi, je trouve franchement, quel que soit le nom de l'adversaire en face, on s'en fout quelque part. L'ASM se trouve dans une telle position que
il n'y a pas à calculer.
Il faut essayer de gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Là, il y a des points à rattraper. Hein. L'ASM est en retard sur son tableau de marche hein, avec au moins une défaite. Peut-être même deux défaites de trop à domicile.
Ah bah deux de trop, oui.
Oui, il y a la victoire à Montpellier qui compense en partie, c'est pour ça que je disais.
On n'est pas une équipe qui vise le top 6 et qui y serait s'il n'y avait pas ces deux défaites à domicile qui font tâche et qu'il faut récupérer. Et pour l'instant.
Donc inévitablement, quel que soit le profil, mais je veux dire, ça serait Toulouse, ça serait La Rochelle, ça serait autre chose, je tiendrai le même discours. Il faut absolument gagner des matchs pour rester à portée de fusil et espérer rentrer dans les objectifs. Donc, en plus, si on voit que la situation de Castres actuellement est encore plus du loup, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer, effectivement.
Mais Castres, ça reste. Oui, effectivement, aller prendre des points n'importe où, mais Castres fait partie des équipes chez qui ils vont jouer à l'extérieur d'ici la fin de la saison, avec Bayonne peut-être. Ça fait partie des cibles prioritaires
parce des concurrents directs.
Des concurrents directs et des équipes grâce chez qui il paraît plus, pas facile, mais plus simple d'aller gagner que d'aller gagner au Racing ou
La Rochelle.
À La Rochelle ou voire à Toulon. Quoi.
En cas de, on va pas faire les oiseaux de mauvais augure, mais en cas de mauvais résultat à Castres, la réception de Lyon derrière pourrait être très importante. Et surtout, de regarder dans le rétroviseur, pas forcément regarder devant, mais regarder derrière, puisque Lyon, ce week-end, reçoit Perpignan. Lyon, qui a 6 points de retard aujourd'hui sur Clermont, en cas de victoire des Lyonnais, il pourrait
avoir
danger.
Mais c'est ce que disait Fred, avec ce top 14 qui est tellement serré où tout le monde peut gagner partout. Chaque match, en fait, remet en cause tout et peut vous relancer et vous remettre dans une situation inconfortable. On sait que s'ils perdent, s'il y a 0 point à Castres, bah, il y aura une réception du Loup sous pression.
Et puis en fait, le Lyon-Perpignan fait que, parce que tu parles du Loup, mais si c'est Perpignan qui gagne, c'est pareil. Oui. Il va falloir, effectivement, défaite à Castres, va sérieusement falloir regarder derrière, parce que ça engrange des victoires. Montpellier recommence à gagner, Perpignan est quand même sur une très bonne dynamique depuis plusieurs semaines. Attention.
Alors, tu en parlais tout à l'heure, Christophe, il y a du mieux ces dernières semaines. C'est pour ça qu'il y a de l'attente aussi autour de ce match à Castres. On avait parlé de tests de caractère, on l'évoquera tout à l'heure sur ce match face au Black Lion samedi. On était un petit peu déçus de la prestation géorgienne. Là, on en saura plus très clairement, savoir si l'évolution clermontoise, si elle se confirme samedi-là.
De toute façon, aller faire un résultat à Castres, ça passe forcément par
un gros match.
Par un très très gros match, par une maîtrise sur 80 minutes qu'ont pas eu toujours les Clermontois, enfin ou même très rarement les Clermontois cette saison, hormis peut-être le week-end dernier en Géorgie, mais bon, avec une adversité qui est peut-être à relativiser. Donc oui, ça sera un test de caractère, de tout ce qu'on veut, mais il y a intérêt d'y avoir l'état d'esprit qu'il faut pour aller s'imposer là-bas et il faudra être costaud.
Parce qu'il y avait eu du mieux au Stade français déjà, on l'avait souligné, même si à l'arrivée il n'y a pas eu de défaite, mais il y a eu nul concédé à la dernière seconde et donc à confirmer ce week-end du côté de Castres. On va enchaîner avec le dernier thème avant de passer au top et flop, c'est l'actualité récente de ce week-end, cette qualification des Clermontois pour les huitièmes de finale de la Challenge Cup avec cette victoire bonifiée donc du côté de la Géorgie, victoire 36 6-3. Clermont termine meilleur deuxième grâce à ce succès bonifié, donc ce qui permet à Clermont de recevoir un huitième et également en cas de victoire d'accueillir également le quart de finale. Donc le huitième de finale, ce sera face au Sud-Africain des Cheetahs, et en quart de finale l'ASM pourrait rencontrera en cas de victoire encore une fois le vainqueur de Montpellier Ulster. Messieurs, jusqu'où Clermont peut-il aller dans cette compétition?
Vu le tableau, ils peuvent viser largement une place dans le dernier carré, voire mieux. Hein, parce que bon, avoir la possibilité de jouer le huitième et le quart dans la foulée en cas de victoire à domicile, c'est quand même un avantage.
Voir la demi.
Voir la demi, ce sont des avantages considérables hein, qui sont dont il faut tenir compte. Donc effectivement, ne pas aller au moins en demi-finale, ça serait quand même, vu les adversaires qui seront proposés aussi, ça serait quand même une assez grosse déception, ouais, je pense. Même si, s'il faut effectivement, Cheetah c'est pas n'importe qui, et puis Montpellier, Ulster, ça va être, mais bon, avec l'avantage du terrain quand même, ils partent avec un a priori favorable.
Et on rappelle qu'en cas de demi-finale, Clermont qui pourrait retrouver les Sud-Africains des Sharks, et à partir des demi-finales, les clubs sud-africains ne pourront pas recevoir, puisque les Sharks, si cette confrontation se confirme encore une fois, qui ont le meilleur bilan, auraient dû recevoir Clermont, mais à partir des demi-finales, les Sud-Africains joueront leur match en Europe. Donc, ce qui fait que Clermont peut aller jusqu'en finale sans avoir à jouer sur le terrain, dans le stade de son adversaire, ce qui est un avantage. On n'en est pas là, hein, mais c'est un avantage.
Et jouer une éventuelle demi si les Sharks sont éliminés avant.
Ouais. Voilà. Il pourrait recevoir effectivement en demi.
Bah c'est un avantage non négligeable pour une équipe qui a quand même de grosses difficultés à s'imposer à l'extérieur depuis pas mal de temps. Donc
Il faudrait que le club aussi fasse, je pense qu'ils doivent y travailler, peut-être pas déjà, mais sur ces deux matchs à domicile, éventuellement le deuxième hein, en cas de qualification, il faut quand même rappeler que c'est des matchs qui ne rentrent plus dans le quota des abonnés du stade Michelin, donc bon, la Challenge Cup, même s'il y a de l'intérêt à Clermont et le public a toujours répondu présent, ça serait bien qu'il y ait un travail de fait pour que, bah, que ça soit des stades pleins et que ça soit une fête du rugby sur ces deux.
On sait qu'il y a un intérêt pour le public clermontois, pour les joutes européennes, quelles qu'elles soient. Hein.
Et puis ça reste un match de phase finale. Après,
On a eu des réceptions de Timișoara ou même les plus récentes, hein, avec des affluences qui sont quand même très élevées.
Ça avait été salué par Jory Jurand il y a 10 jours. Est-ce que justement cette Challenge Cup, est-ce que ça peut offrir une petite parenthèse saison ?
C'est ce que disait Frédéric Charrier hier, c'est que c'était une petite fenêtre dans le parcours de ce bloc interminable qui leur a permis de sortir un peu de la routine et de voir autre chose, un arbitrage différent, des adversaires différents. Et je pense que ça leur fait du bien, ouais, aux joueurs de sortir un peu du cadre du top 14. Et si en plus, ça, en phase finale, ça veut rigoler un peu, bah, oui, c'est toujours bon à prendre. Hein. Tout à fait.
Il y a un élément aussi, ça peut peut-être permettre de se qualifier pour la Champions Cup la saison prochaine. Alors, bon, on en est très très loin.
Il y a 4 matchs à gagner quand même.
Effectivement, mais...
ça offre un billet, effectivement.
C'est peut-être ça sera peut-être à un moment le moyen le plus simple d'obtenir un ticket pour la Champions Cup.
Parfait, eh ben merci messieurs, on va se quitter avec les top et flop, un top et un flop, on va commencer avec toi Didier.
Le flop malheureusement ça il va concerner le Toulousain Anthony Jelon qui s'est malheureusement blessé de nouveau au genou droit, cette fois après avoir été blessé au genou gauche avant la Coupe du Monde. Une blessure qui va le contraindre à déclarer forfait pour le tournoi, c'est sûrement ça va être terrible pour lui quoi, d'enchaîner ces deux graves blessures à moins de 9 mois d'intervalle. Est-ce que cette dernière est la conséquence de la première? On peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il n'est pas revenu trop vite, est-ce qu'il n'a pas trop forcé sur la mécanique? On ne le saura jamais, mais bon, en tout état de cause, pour lui ça doit être sacrément dur à digérer pour la suite, quoi, c'est sûr.
Et c'est un coup dur pour l'équipe de France aussi.
Et pour l'équipe de France, c'est pour le club.
C'est toujours facile mais de dire ça après. Et bon, c'est difficile d'avoir des données chiffrées par rapport à ça, mais on se dit que la charge de travail était telle pour les internationaux qui sont sollicités pour cet événement. Puis il y a une décompression aussi, certainement mentale. Ce genre de blessure, il y a Falatella, il y en aura d'autres, certainement, mais c'est des blessures qui sont un peu malheureusement attendues pour les joueurs qui ont été pas mal sollicité. Et lui particulièrement, puisqu'il a été engagé dans une telle course contre la montre pour pouvoir participer à la Coupe du Monde.
Il y a eu un précédent qui avait touché Clermont en 2010-2011 avec Thomas Domingo, qui avait fait l'effort de revenir d'un croisé pour être prêt pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Mais lui, il n'y était pas arrivé. Et bah, dans la foulée, il s'est fait l'autre genou en suivant 2 mois après d'être revenu.
Fred. Donc, voilà. Bah moi, je voulais mettre le Black Lion à l'honneur. Alors, c'est pas vraiment pour sa prestation
sur le terrain,
sur le terrain contre l'ASM, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne semblaient pas d'équerre dans cette équipe. Mais c'est de les voir participer à cette compétition. Je trouve que c'est une très bonne chose. On a vu l'affluence. Alors, notre envoyé spécial Arnaud Clergadze nous a donné quelques éléments d'ambiance. Visiblement, l'accueil géorgien, c'est quelque chose. La fan zone autour du stade, c'était aussi quelque chose, nous a-t-il dit, dont les clubs de top 14 devraient s'inspirer. Plus de 17 000 spectateurs pour ce match-là, c'est la plus grosse
affluence. C'est la plus belle affluence des matchs de Challenge Cup.
Tout à fait, donc c'est pas rien non plus. Alors, l'ambiance était, semble-t-il, assez décevante malgré tout, mais il faut s'ouvrir de toute façon vers des pays comme la Géorgie. C'est une vraie terre de rugby et qui alimente le top 14 en joueurs depuis pas mal de temps déjà. Donc c'est très bien de voir cette équipe. Et puis c'est en participant à cette compétition, en multipliant les matchs contre des clubs plus huppés, que le rugby progressera, c'est évident.
On rappelle le Black Lion qui avait été invité en Challenge Cup, comme les Cheetahs. Le futur adversaire des Clermontois. On va terminer ces top et flop avec toi, Christophe.
Alors moi, c'est un top et c'est un joueur de l'ASM qu'on ne met pas souvent à l'honneur ici, c'est Alex Newsom. Alors, en partie parce qu'il a marqué un essai qui a été remarqué ce week-end. Un raid solitaire, un petit numéro de funambule dans la défense géorgienne. Mais c'est surtout qu'après 4 journées de Challenge Cup, c'est un garçon qui domine beaucoup de statistiques et qui a vraiment performé dans cette compétition. Il est le meilleur, enfin, il est le joueur qui a battu le plus de défenseurs en 4 matchs. Il est le numéro 1 avec 18 joueurs battus. C'est celui qui a parcouru le plus de mètres avec le ballon. Et c'est celui qui a le plus joué, enfin le troisième, derrière Zach Mercer, l'ancien de Montpellier, qui a joué le plus de ballons à la main, ce qui montre que ce garçon était en canne et avait la volonté de jouer, de relancer. Donc un petit focus sur lui, ce qui n'est pas souvent arrivé depuis qu'il est ici il y a 2 ans. Donc voilà.
Parfait. Eh ben merci messieurs de m'avoir accompagné. La semaine prochaine, vous retrouverez Grégory Gomez. D'ici là, belle semaine à tous et à bientôt. Salut.
Au revoir.
Salut.